Alors aujourd'hui, on célèbre la victoire de Jésus sur la mort et le péché. Et on a déjà eu des lectures, on a déjà eu un petit rappel des événements, on a vu comment ces événements-là, ils ont un sens encore aujourd'hui, ils changent encore des vies aujourd'hui. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais quelle différence ça fait pour moi? Quelle différence ça fait pour vous? Certains, ce matin peut-être, en fait c'est sûr, sont dans le deuil d'avoir récemment perdu un être cher, une personne qu'elles aimaient. Il y en a d'autres qui ont en ce moment même dans leur entourage des personnes qui comptent pour elles, mais qui sont malades. Et les nouvelles sont pas bonnes. Et quoi qu'il arrive, nous tous ici qui sommes présents, nous devrons faire face un jour à la mort nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça signifie les paroles de Jésus quand il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Je vous invite à explorer ça dans notre passage ce matin dans Jean au chapitre 11. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne de comprendre. C'est pas juste notre intelligence. C'était assez intéressant d'entendre Chantal dire « J'étais là, je comprenais pas grand-chose. » Sauf à un moment quand Dieu donne la compréhension. On comprend, notre cœur s'ouvre, notre intelligence s'ouvre, et c'est ce que je prie pour nous maintenant. Et si vous voulez, on va juste prier rapidement. Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant, et je prie que tu parles à nos cœurs maintenant, et que chaque personne ici puisse repartir en ayant expérimenté ton amour et vu ta gloire. Donne la vie à ceux que tu veux sauver et délivrer de la mort. Et rassemble en un seul corps tes enfants dispersés. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami, Lazare, s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Ah, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître ici est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Jusqu'ici, la lecture. Il faut qu'on comprenne, et ça va être une partie assez importante de ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin sur ce passage, il faut qu'on comprenne l'objectif de Jésus dans toute cette histoire. C'est dans les versets 1 jusque 16. Et si vous avez regardé, si vous avez bien été attentif à la lecture, l'épisode qu'on est en train de lire, il nous parle d'amour. Vous avez entendu combien de fois aimer, l'ami, etc., ça revient? L'amour de Jésus pour une famille éprouvée, pour des hommes et des femmes face à la souffrance. Au verset 3, les sœurs n'ont pas peur de mentionner Lazare en disant « celui que tu aimes ». C'est tellement évident pour elle que, juste en disant ça, Jésus comprend qu'on parle de Lazare, son ami. Au verset 5, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Au verset 11, il parle de Lazare comme son ami. Il n'y a pas de doute que Jésus a beaucoup d'affection et d'amour pour Lazare, pour ses sœurs. Il n'y a pas de doute qu'ils sont des amis proches. Même les gens en dehors de leur cercle ont pu le constater. Au verset 36, on voit ça. Ils disent, voyez comme ils l'aimaient, en voyant Jésus pleurer à propos de Lazare. Jésus aime cette famille et la situation est assez dramatique. Parce que cet ami est gravement malade. On comprend que c'est pas juste un rhume. La maladie, elle est grave, probablement mortelle. De toute façon, chaque maladie, même un rhume, est un rappel de notre faiblesse, de notre finitude, de la réalité de la mort. de notre mort. Donc, on s'attendrait à voir Jésus courir auprès de Lazare et de cette famille. Et peut-être vous avez été choqué de lire deux versets côte à côte et on dirait que ça ne tient pas du tout ensemble. Le verset 5 et le verset 6. Le verset 5, on voit Jésus aimer Marthe, sa sœur et Lazare. Et verset 6, on lit, quand il a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Pourquoi? Pourquoi il se précipite pas? Pourquoi il va pas auprès de son ami qui est gravement malade? Pourquoi attendre? Bientôt, ça va être trop tard. Et la clé, alors, pour comprendre ça, c'est le verset 4. C'est ce qui nous permet de comprendre comment Jésus a véritablement aimé cette famille. Le passage nous dit clairement que Jésus n'est pas allé tout de suite voir Lazare parce que il l'aimait, qu'il aimait Marthe et Marie. Et que cet amour-là consiste à ce que la gloire de Dieu et celle du Fils de Dieu soient révélées. Pour Jésus, l'amour, son amour, est intrinsèquement lié à la manifestation de sa gloire. N'ayez pas l'idée que la gloire, ça veut dire juste un éclat lumineux, juste les dorures, etc. Ça veut dire la présence même de Dieu. Quand Dieu manifeste sa gloire, c'est-à-dire qu'il se manifeste lui-même. Et on peut en goûter quelque chose, on peut en recevoir quelque chose. Donc ce que Jésus est en train d'affirmer, c'est que la gloire de Dieu, la gloire du Fils, est plus précieuse que cette vie ici sur terre. Et donc, l'objectif de Jésus est beaucoup plus grand, c'est de manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est ce dont nous avons réellement le plus besoin. Et donc, Jésus nous aime en nous donnant ce qui compte vraiment pour nous, ce qui a du poids dans notre vie, ce qui va vraiment satisfaire un cœur, une âme humaine. La gloire de Dieu, c'est sa présence même. Et contempler sa gloire, c'est pas quelque chose juste de visuel, mais même Thierry et Chantal en ont témoigné, c'est quelque chose, même au travers des épreuves, tu sais qu'il est là, et ça te tient, et c'est plus beau, et c'est plus précieux. Et tu peux t'en souvenir encore des années après en disant, c'était magnifique comment Dieu était présent dans ces moments-là. La gloire de Dieu, c'est goûter à l'intimité de Dieu lui-même. Est-ce que vous réalisez que nous, les êtres humains, nous sommes les seuls êtres créés pour être dans cette intimité-là avec Dieu, capables de goûter cette intimité avec Dieu lui-même, d'être connectés en relation avec notre Créateur et notre Père Céleste. Sa gloire alors, sa présence, c'est notre plus grand bien. Si Dieu ne tenait pas à sa gloire, s'il renonçait à sa propre valeur, à sa valeur immense, insondable. En fait, on serait complètement laissé sans espoir. Il n'y aurait absolument plus rien dans ce monde qui pourrait satisfaire le vide dans nos cœurs. Nous avons été créés pour rien de moins que Dieu lui-même. Rien, rien en dehors de Dieu ne pourra jamais nous combler. Alors le plus beau cadeau que Dieu peut nous faire, c'est de se donner lui-même à nous. Ce passage redéfinit un peu notre âme, notre amour, notre conception de l'amour. Le but ultime de Dieu, c'est pas de nous donner des richesses, ce n'est pas de nous faire échapper à toutes les souffrances, ni même à la mort physique, dans un sens. Mais c'est que de se donner lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà comment Dieu nous aime, voilà comment Jésus aime. Ça veut dire qu'il y a une manière de voir la vie et la mort qui conduit à la frénésie de posséder, de se construire des sécurités qui nous sont propres. Il y a une manière de concevoir sa vie et sa mort en cherchant à gagner le monde et essayer de sauver sa vie. Mais la Bible nous dit ça, c'est une impasse. Celui qui veut faire ça, il va perdre sa vie. Et il y a une manière de considérer sa vie et sa mort qui conduit à voir la gloire de Dieu et du Fils d'une façon plus grande. Et c'est là que se trouve en réalité notre plus grand bien, la vraie sécurité et l'espérance de la vie éternelle. Pour Jésus, il y a plus d'amour à laisser une personne mourir, à laisser une famille passer par le deuil, si cela révèle et manifeste la gloire de Dieu et celle du Fils de Dieu. Il y a plus de valeur à ça que de faire en sorte que cette personne ne meure pas ou que cette famille n'ait pas à passer par le deuil. Ça nous semble difficile à saisir, n'est-ce pas? Ça nous semble pas aller dans le bon sens. Mais c'est bien comme cela que Jésus se manifeste et explique les choses. Son objectif, son but ultime, c'est de se révéler lui-même, c'est de se donner lui-même, afin qu'on le connaisse. Et que quels que soient les événements qu'on soit amené à traverser, on est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Dieu lui-même. C'est pas juste nouveau ici dans ce passage, mais déjà dans l'évangile de Jean, Dieu nous a conduits à comprendre ça. Chapitre 1, versets 14 et 16. Jean, au début de l'évangile, il dit « La parole de Dieu s'est faite homme. » Il est en train de parler de Jésus. « Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et le fait de contempler cette présence de Dieu dans le monde, en Jésus-Christ, il a un effet. C'est le verset juste après. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Quand on contemple la gloire de Dieu, quand on est au bénéfice de la présence de Dieu, alors on reçoit grâce après grâce après grâce dans notre vie. De sa plénitude, une grâce après une autre. Notre joie, notre consolation, notre vie dépend de sa plénitude à lui. C'est lui dont nous avons besoin. Et quand nous le connaissons, quand nous nous approchons de lui, quand nous commençons à contempler sa gloire, de plus en plus, nous recevons sa grâce. Voyez, c'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de sensibilité de la part de Jésus. En réalité, il est en train d'amener les choses pour que sa gloire soit révélée. Et que Marthe, Marie, Lazare et tous ceux qui sont là et qui voudront croire reçoivent ce qu'il y a de plus précieux à recevoir. Ce qu'il y a de plus précieux à recevoir, c'est pas juste 10 ans de plus à vivre. C'est même pas 5 minutes de plus à vivre dans cette terre ici. C'est de être en relation avec le Dieu de l'univers. Les chapitres suivants dans l'évangile de Jean montrent que le grand enjeu pour nous, c'est de connaître Christ et de croire en lui. De le connaître tel qu'il est vraiment. Celui qui rassasie, vous vous souvenez de ces paroles? Le pain descendu du ciel. Celui qui étanche les soifs qu'on a au fond du cœur, la source d'eau vive. Tout le sens de la venue de Jésus, de sa mort sur la croix, de sa résurrection que on fête aujourd'hui, tout cela, Dieu l'a conçu pour que nous puissions voir sa gloire, goûter à sa présence et avoir nos âmes comblées par sa grâce. C'est pour ça que, au verset 15, on peut lire, Jésus peut se réjouir de ne pas être venu. On ne peut pas comprendre ça si on n'a pas compris ce que j'ai essayé de vous expliquer jusqu'à maintenant, et ce que je pense est là dans le texte. Jésus a un plus grand bien en vue. C'est afin que les disciples voient et croient en lui. Ça commence maintenant, pour ceux qui croient, et ça n'a pas de fin. Est-ce que vous réalisez que pour l'éternité, c'est ça que Dieu propose? Juste vivre dans sa présence. C'est ça le plus grand cadeau. On va pouvoir passer 1000 ans à contempler sa gloire, et en contemplant sa gloire, recevoir ses bénédictions, les bienfaits de Dieu, voir notre âme comblée, satisfaite, pleine à craquer quand il y a trop d'émotions et qu'il y a un rire qui jaillit ou que les larmes, elles commencent à couler des yeux. Et après ces 1000 ans-là, on aura encore 1000 ans pour être rempli de joie et on n'aura encore pas fini de contempler la gloire de Dieu et être rassasié et satisfait de la présence de Dieu lui-même. Et quand on aura fait ça, et ainsi de suite, pour l'éternité. Dieu nous aime en nous donnant Jésus et tout ce que Dieu est pour nous en Jésus. Et quand on lit ça, et quand Jésus est en train de dire ces paroles, il veut que tous ceux qui l'entendent ressentent cet amour. Il veut que tous ceux qui l'entendent soient en train de remettre leur schéma à la bonne mesure. La mesure de l'amour de Dieu, c'est pas nos circonstances. C'est pas la santé, c'est pas l'argent, c'est pas les souffrances épargnées, même si, bien sûr, tout ça, ça fait du bien, mais ce n'est pas la mesure de l'amour de Dieu. Si c'était ça, la manière de mesurer l'amour de Dieu, alors Jésus aurait en réalité détesté Lazare, puisqu'il l'a traîné à aller le voir. Mais c'est pas ce que le texte dit. Il dit que Jésus aimait Lazare, Marie et Marthe. C'est pas comme ça qu'il faut mesurer. Mesurons l'amour de Dieu à la manière dont il se manifeste dans notre vie, dont il se révèle à nous en Jésus, même au travers des circonstances pénibles. Jésus, quelques jours plus tard, va prier comme ça. Chapitre 17, versets 1 à 3. « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu veux goûter la vraie vie? Tu veux savoir quel est l'amour de Dieu? Connais Dieu, connais Jésus-Christ. C'est là qu'est la vraie vie. » Et plusieurs ici, ce matin, ont déjà goûté à cet amour, et vous savez de quoi je parle. Et vous n'êtes pas si choqués que ça, finalement. Parce que vous êtes déjà passés par des moments difficiles, et dans ces moments difficiles, il y avait quelque chose qui vous tenait, et vous n'avez pas compris ce que c'était, mais c'était Dieu. C'était son amour qui se manifestait, qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui, encore en train de louer, d'adorer, encore en train de désirer mieux connaître ce Dieu qui a déjà donné sa grâce. Est-ce que vous commencez à sentir, à voir, à comprendre de quelle manière Dieu aime? Ben, vous n'avez pas encore tout vu. Jésus attend 2 jours et puis il se rend à Béthanie. Il y a cette question de timing qui est expliquée un peu par Jésus avec cette histoire de lumière et de nuit et de jour, au verset 8. Il dit, voilà, c'est le temps de partir vers Béthanie, d'aller voir Lazare. Et les disciples lui dirent, mais maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. En Judée, les gens cherchent à tuer Jésus. Jésus explique, quand il fait jour, on peut travailler. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Le jour, c'est quand lui est là, c'est quand il est présent, c'est quand il accomplit son œuvre. C'est exactement ça qu'il est en train de faire maintenant. Il fait ça pour que notre nuit, celle de la mort, celle du péché dans lequel l'humanité est plongée et qui obscurcit notre vue, de sorte qu'on ne voit plus la gloire facilement, ou plus du tout parfois. Il fait cela, il accomplit son œuvre en tant que lumière du monde, pour que nous qui sommes dans les ténèbres, nous puissions voir poindre la lumière du jour dans notre existence. Et bientôt Christ lui-même donnera sa vie pour beaucoup. Il semblera que, à la croix, le vendredi saint, la lumière ne brille plus, qu'elle a été engloutie par les ténèbres. Mais en réalité, c'est là que son amour est le plus manifeste. C'est à ce moment-là que sa gloire est la plus évidente. Le Fils de Dieu éternel est venu sur la terre pour ce moment-là, pour donner sa vie sur la croix pour des pécheurs, pour les sauver, pour les délivrer. Jésus s'apprête à donner sa vie pour que nous n'ayons plus jamais à trébucher dans les ténèbres. Et pour le moment, il s'apprête juste à donner un petit aperçu de ce que ça veut dire. Il s'apprête, parce qu'il aime, à révéler sa gloire. On est vers le verset 17 maintenant, et Jésus révèle d'abord sa gloire à Marthe. En fait, vous avez remarqué, il y a sorte de trois catégories de personnes. Il y a Marthe, il y a Marie, et puis il y a les Juifs qui sont autour de Marthe et Marie, la foule des amis de la famille de Lazare. Et vous avez remarqué, peut-être, il y avait comme une répétition au verset 21. Marthe dit, « Mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Au verset 32, Marie, elle dit la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous comprenez leur question? En réalité, elles sont en train de dire, « Est-ce que tu nous aimes vraiment, Jésus? Est-ce que tu nous aimes vraiment ?» Les Juifs, au verset 36 et 37, expriment les mêmes doutes, les mêmes déceptions, avec d'autres mots. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas? Puisqu'il l'aimait, pourquoi est-ce qu'il n'a rien tenté pour lui? Est-ce qu'il aime vraiment? Il y a pas mal de doutes dans toute cette partie ici. Et la réponse de Jésus, c'est de manifester sa gloire par la vérité, premièrement, avec Marthe. L'objectif de Dieu et de Jésus, c'est qu'on s'attache à Jésus, à notre Père Céleste. Et Jésus va donc affermir une grande vérité dans le cœur de Marthe. Voilà comment il va l'aimer. Voyez, Marthe doute. On a lu au verset 21, mais pas complètement en même temps. Au verset 22, elle dit, « Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Voyez, Marthe a une espérance. Quand Jésus lui répond, « Oui, ton frère va ressusciter. » Elle dit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, au jour du jugement, à la fin de ce monde-ci. » Mais c'est pas encore assez beau pour Marthe. Il y a quelque chose de plus grand pour elle comme pour nous. Et Jésus prend la parole et lui dit, « Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Marthe, tu crois qu'au dernier jour, le Messie viendra et ressuscitera pour l'éternité des millions et des millions d'hommes et de femmes en leur donnant un nouveau corps, une vie éternelle. Tu crois cela ? Oui, Marthe, elle croit ça. Mais Jésus dit, ben, c'est maintenant. Parce que si c'est conditionné à la venue du Messie, si ça doit arriver avec la venue du Messie, eh bien, c'est fait. Parce que le Messie, c'est moi qui te parle, dit Jésus. Le roi choisi par Dieu est là pour vaincre ses ennemis, les puissances du mal et la mort, et pour délivrer son peuple. C'est moi qui suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Il continue en disant à Marthe, « Mais celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ça, c'est pour Lazare. Lazare est mort. Mais il avait mis sa confiance en Jésus. Et en réalité, il vit. Et ce que tu vas voir, Marthe, c'est juste un aperçu, une avant-première. C'est comme la maison témoin. Vous savez, quand il y a un nouveau lotissement qui se construit, les acheteurs, ils veulent bien avoir des plans, mais quand il y a une maison témoin, quelque chose qui a été déjà construit, ça paraît plus concret, c'est réel. Ça donne une idée de ce que va être l'ensemble du lotissement après. Jésus, dans un sens, il va faire maison témoin avec Lazare, si vous me permettez cette comparaison. Et si Marthe a pu avoir cet aperçu, c'est aussi pour que nous, on puisse savoir ce qui va nous arriver à nous. Tu vas affronter la mort un jour. Mais crois-tu Jésus quand il dit qu'il veut et qu'il peut donner la vie dans sa présence? Dès aujourd'hui, pour contempler sa gloire et recevoir grâce sur grâce, et cela même au-delà de la mort. Jésus dit, verset 26, « Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça, c'est pour Marthe. Elle est vivante à ce moment-là. Elle entend Jésus lui dire cela. Jésus va ressusciter Lazare et le faire vivre au-delà de la mort. La question de quand est-ce que ça va arriver, ce n'est pas ça là qui est important. Ce qui est miraculeux, c'est que c'est possible de vivre au-delà de la mort, dans la présence de Jésus. Jésus va le faire. Mais pour Marthe, qui est vivante et qui croit, Jésus est en train de lui dire qu'il n'y aura pas une seule seconde où elle sera séparée de Jésus. Il n'y a pas un seul millième de seconde dans sa vie où elle pourrait être en dehors d'une communion réelle et profonde avec Jésus. Il n'y aura pas de séparation. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus n'abandonnera pas Lazare dans le séjour des morts, et il gardera Marthe également dans sa présence, toujours. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il les aime. Jésus est en train de dire à Marthe, « Je t'aime. » Je veux que tu le saches. Voilà la grande vérité sur laquelle tu peux construire ta vie. Voilà la grande vérité sur laquelle tu peux t'appuyer maintenant. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Verset 28 et suivant, maintenant c'est Marie. Et voyez comment Jésus révèle sa gloire par ses émotions. Il y a beaucoup d'émotions là. Marie est en pleurs. Elle est à bout. Elle n'en peut plus. Si tu étais intervenu, il serait pas mort. J'aurais pas eu à passer par tout ça. Elle pleure. Et les Juifs qui sont venus la consoler pleurent eux aussi. Des fois, il n'y a plus de mots pour exprimer ce qu'on a au fond de son cœur. Que le désespoir. Où es-tu, Jésus? Où étais-tu quand c'est arrivé? On peut bien comprendre. Mais regardez, Marie n'est pas la seule à ressentir de vives émotions. Regardez le verset 35. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus aussi est ému aux larmes. Jésus n'est pas indifférent à ce qui se passe au niveau de nos émotions, au niveau de notre vie. Et c'est un de ces passages qui nous montre toute la sensibilité de Jésus, la profondeur de ses émotions. Ça devait être si palpable que tous ceux qui étaient là l'ont constaté et que Jean peut écrire « Voyez comme il l'aimait ». La tristesse, ce n'est pas la seule émotion que Jésus ressent. Au verset 33, on voit que Jésus est profondément indigné et bouleversé. Peut-être on pourrait comprendre que c'est la mort d'un ami qui le touche ainsi, il est indigné contre la mort, en colère qu'il y a cette mort qui survienne. Mais les termes employés en fait nous mettent sur une piste un peu différente. Parce que profondément ému ici, profondément indigné, ça veut dire en colère, choqué. Jésus ne peut pas être indigné ou en colère ou choqué par la mort de Lazare, c'est lui qui l'a voulu. Vous vous rappelez au verset 4? Il a voulu que Lazare passe par ça parce que c'était le moyen pour lui de montrer une gloire plus grande. Et le deuxième terme, bouleversé, est utilisé dans Jean 5 pour parler de l'eau agitée à la piscine de Bethesda. Ça remue à l'intérieur, si vous voulez. Qu'est-ce qui peut troubler ainsi Jésus, alors? Au verset 38. Qu'est-ce qui indigne profondément Jésus? C'est les paroles de quelques-uns. C'est, malgré les émotions qu'on peut comprendre, les paroles de Marthe et de Marie. Verset 37. Qu'est-ce qui vient d'être dit? Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Ils sont en train de dire, Jésus n'a pas aimé ses amis. Jésus n'a pas vraiment eu du souci pour eux. Jésus n'est pas en colère contre la mort, mais indigné, bouleversé par les accusations qui naissent dans les cœurs, les doutes, les questionnements sur ses motivations. Il est bouleversé, indigné contre ceux qui affirment qu'il n'aime pas vraiment, qu'il n'est pas capable d'aimer vraiment. Je crois qu'il a dû ressentir la même indignation que dans le jardin d'Éden. Quand le serpent a questionné Ève en vue de l'amener à douter de la bonté de Dieu, de son amour, quand il l'a amenée à douter de ses motivations. Ces émotions de Jésus révèlent donc aussi la gloire du Fils et celle de Dieu. Elles nous aident à le connaître. Le voir ainsi pleurer avec ceux qu'il aime, et pour ceux qu'il aime, c'est voir son amour. Le voir en colère que l'on puisse douter de son amour, c'est aussi voir la grandeur de cet amour-là pour nous. Comment est-ce qu'ils peuvent douter? Il veut pas le garder pour lui, cet amour-là. Il veut le manifester. Il veut que ça soit clair. Et il est, dans un sens, indigné. Il aimerait que personne ne doute de cet amour. Il va tout faire pour que personne ne doute. Et c'est la dernière partie. Jésus révèle sa gloire par un acte puissant. Il y a un temps aussi pour un acte puissant de la part de Dieu. Voyez comment l'histoire se termine, ou presque on pourrait dire pour Lazare, elle recommence. Jésus s'approche du tombeau, demande qu'on ouvre, qu'on roule la pierre. Marthe résiste. Elle est reprise par le doute un moment, mais tu sais, c'est trop tard. Il est déjà dans le tombeau depuis 4 jours, il a commencé à se décomposer, il n'y a plus que l'odeur de la mort là-dedans. Jésus lui rappelle son grand objectif, que sa gloire soit révélée. Marthe a besoin de cela, de contempler Jésus et la gloire de Dieu, parce qu'en faisant cela, elle recevra la grâce pour aller plus loin. C'est comme cela que Jésus nous aime. Voyez le lien entre le verset 4 et le verset 40. Jésus n'a pas dévié dans son amour. Son amour est constant et donne ce qui est vraiment bon. Et maintenant, Jésus révèle sa gloire en action. Il prie à haute voix de sorte que tous comprennent que Jésus et Dieu sont unis et que l'amour de Jésus, Dieu le Fils, est bien de la même nature que celui de Dieu le Père. Il prie de la sorte pour que tous ceux qui l'entendent arrêtent de douter de l'amour de Dieu, mais plutôt qu'ils croient. Est-ce que tu crois ce matin à l'amour de Jésus et de Dieu? Est-ce que tu le vois, cet amour? Est-ce que en lisant ce passage et en voyant Jésus agir, tu peux contempler la gloire de Dieu? Et puis Jésus commande d'une voix forte à Lazare de sortir de sa mort et de sortir de sa tombe. Et Lazare sort. La seule voix de Jésus a suffi. C'est comme ça qu'on est sauvé. D'un coup, la voix de Jésus retentit dans notre cœur. Marc-Étienne, debout! Et Marc-Étienne dit: est en train d'avoir un aperçu de ce qui va se passer à la fin des temps pour Lazare, pour Marthe, pour Marie, pour toi, si tu veux croire. Voilà en tout cas notre Dieu. Jésus fait un acte puissant, étonnant avec Lazare, qui annonce quelque chose qui va être plus grand que cette famille judéenne, il y a 2000 ans. Et je termine avec ces versets, au verset 49, si vous voulez relire avec moi. Certains croient Jésus, d'autres refusent de croire, ils rejettent Jésus. Et parmi eux, même les responsables religieux de l'époque, juifs. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Caïphe, malgré lui, il ne sait même pas ce qu'il dit dans un sens, il n'a pas conscience de la portée de ses paroles, mais Jean, inspiré par Dieu, dit: ces paroles étaient voulues par Dieu pour annoncer ce que Jésus allait faire. Quelques jours plus tard, une semaine plus tard, un vendredi. Jésus allait être cloué sur une croix. Il était préférable, il était dans notre intérêt, à nous pécheurs, qu'un seul, un innocent, un juste, un qui nous a aimés sans faille, un qui nous a donné ce qu'il y avait de meilleur, la gloire de Dieu, pour qu'on puisse recevoir grâce après grâce. Celui-là, Jésus, a donné sa vie pour que nous n'ayons pas à le faire, pour que nous n'ayons pas à supporter notre désobéissance, notre rébellion contre Dieu, dans une séparation éternelle avec notre Père. Il était dans notre intérêt qu'un seul meure, qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne disparaisse pas. Et ce n'était pas pour la nation juive seulement, mais c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, les Français, les Nigérians, des Béninois, des Gallois, des Malgaches, des Algériens. J'espère que j'oublie personne. Et encore tout un tas d'autres. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Je vous invite à prier courtement. Seigneur, je prie que tu révèles ta gloire à ceux et celles ce matin, nous tous en réalité, qui avons besoin de ta présence. C'est le plus grand cadeau que nous puissions avoir de toi. Je prie pour ceux qui doutent, pour ceux qui ne croient pas encore, que voyons à quel point tu aimes, avec quelle mesure tu aimes et avec quelle puissance tu aimes, ils puissent venir à toi. Et je prie pour ceux et celles qui ont mis leur confiance en toi. Soutiens notre espérance. Ne nous permets pas de douter de ton amour, mais tiens-nous fermement dans ta main, dans cette vie-ci et même au-delà de la mort, pour toute l'éternité. Nous te bénissons parce que tu es ressuscité et tu es vivant. Amen.